Émission On en jase, il est midi pile. C'est votre nouvelle émission du midi, de midi à 14h avec Jeff Fortin et Pascal CV. Comment ça va, Pascal CV? T'es-tu reposé en fin de semaine?
J'ai juste fait ça et été au tailgate, alors bien en selle, prête à affronter cette fin de campagne électorale municipale.
C'est ce que je croyais, je t'ai vu en grande forme au tailgate hier. Merci à tous les auditeurs qui sont venus nous voir justement au tailgate, au Rouge et Or, cette victoire du Rouge et Or. 16-6 sur les Caramels de l'Université de Montréal. On est encore bien meilleurs que Montréal. On les a battus, on est premiers dans la ligue. Puis, ah ouais, on va y rebattre en série.
Qu'est-ce que t'en penses? J'étais surprise de cet écart-là. Ça a comme été facile. Félicitations au Rouge et Or qui a su, dans les années qui ont précédé ce match-là, reprendre un petit peu de force.
Exactement. 418-971-1021. Retenez bien ce numéro. On veut vous lire, on veut vous voir réagir parce qu'on va parler dans quelques instants de ce sondage élection municipale. Il y a moi dont ça, Bruno Marchand a pris une avance quasi insurmontable. Vous trouvez ça comment? 418-971-1021. On est également disponible sur la web radio au blvd.fm et vous pouvez aller réécouter les meilleurs moments également au blvd.fm. Justement, notre entrevue avec Bruno Marchand de jeudi dernier s'y retrouve. Puis il y a un beau débat aussi, Lambert Drainville, avec Farnell Morisset sur les cotisations syndicales qui s'y retrouvent. C'était vendredi dernier. C'était très, très, très intéressant. twitch.tv/blvd/fm et surtout l'application Boulevard disponible sur App Store, Google Play Store. Et on a également les haut-parleurs intelligents. Faut dire quoi, non, Pascal, avec les haut-parleurs intelligents, ta minute?
BLVD 102.1.
Écoutez, BLVD 102.1, puis let's go. On est parti. En studio avec nous, on a Antonine Iacarini et Mathias Turcotte. Belle fin de semaine, les amis.
Ben oui. Mais contente que ce soit lundi et de vous retrouver.
Ah, c'est donc bien fun.
C'est partagé.
Ben oui, c'est partagé, certain. Moi, j'aime mes fins de semaine, mais j'aime tellement faire de la radio que je déteste pas
ça. Ben c'est ça.
Lundi.
Je n'haïs pas les lundis. On va dire ça comme ça, c'est bon signe.
C'est ça, exactement. Mathias Turcotte qui est allé sur le terrain rencontrer Sam Hamad qui s'en va voir Bruno Marchand dans une couple de minutes à 1h30. Comment ça va, Matt? Passez une belle fin de semaine?
Ça va très bien. Grosse fin de semaine. Beaucoup, beaucoup d'études. C'est à mi-session,
ouais,
universitaire.
C'est
bienvenue
vrai
à l'université.
Yes.
En plus, en économie, c'est sûr.
Ah, ouais. J'ai mes examens cette semaine, puis j'ai pris quand même un peu de retard dans les dernières semaines. Fait qu'on rattrape ça aux grands chevaux. Dans les derniers jours.
Excellent. Sans plus tarder, c'est le...
Le caucus. Le caucus.
102-1.
Voici Antonine Iacarini.
Antonine Iacarini dans le caucus. Avant de passer à cette belle sortie que Mathias a fait pour nous ce matin, je te pose la question. Est-ce que tu es surprise de voir Bruno Marchand à 40%? Dans le dernier sondage, élection municipale, sondage Segma, Le Soleil, Radio-Canada, Stéphane Lachance prend le deuxième rang à 16%, Sam Hamad est à 14%, ferme la marche Claude Villeneuve à 6%, Jackie Smith à 3% et Anne Guérette à 2%.
Non, pas surprise, parce que, bon, je vais être bien franche avec vous, la semaine passée, je regardais la semaine se dérouler, je me disais, mais quelle belle semaine pour Bruno Marchand, puis c'est pas parce que lui avait fait des annonces
non.
exceptionnelles ou quoi que ce soit, là. C'est juste parce que ce combat entre ces challengers potentiels, Stéphane Lachance et Sam Hamad, dans les espèces de sables mouvants dans lesquels ils se retrouvaient.
La chicane!
C'est sûr que ça avantageait Bruno Marchand. De là à monter jusqu'à 40%, ça, j'avoue que, mettons que j'avais sorti ma boule de cristal, puis j'avais essayé de deviner les chiffres, j'aurais peut-être pas mis à 40%. Mais il y a vraiment cette idée qui est en train de se cristalliser. Bon, tous ceux qui sont pro-Marchand déjà, plus ceux qui étaient indécis jusqu'à récemment, mais peut-être plus favorables, évidemment, aux idées de Bruno Marchand, qui peuvent ressembler aussi quand même dans jusqu'à un certain point à celles de Claude Villeneuve. Il y a quand même des idées en commun aussi avec Transition Québec, etc. Mais ça s'agglutine autour du meneur, autour de Bruno Marchand. Mais là, c'était de savoir qui allait être l'adversaire. Et là, de voir que Stéphane Lachance prend les devants, c'est pas une énorme différence de points, mais même si tu additionnes Stéphane Lachance et Sam Hamad, ben c'est pas assez pour faire le poids contre Bruno Marchand, mais il reste 17% d'indécis.
En effet. Par contre, je te ramène à une statistique. Premier sondage, 26% Bruno Marchand, 31% d'indécis. Troisième sondage, 40% Bruno Marchand, 17% d'indécis. Écoutons, 14% d'indécis se sont-ils retrouvés tout à Bruno Marchand?
Ben c'est ça. Donc, ça veut dire que les opposants à Bruno Marchand ne sont pas capables d'aller chercher autant d'indécis que Bruno Marchand. Il peut aussi avoir eu un transfert, hein, même directement, de l'équipe de Sam Hamad vers Bruno Marchand. Parce que faut quand même garder en tête qu'il n'y a pas juste le tramway dans la vie.
Non, en effet.
Donc, il y a des gens qui vont prendre une décision qui ne sera pas basée sur le tramway. C'est dur à... Des fois, il faut se le rappeler, là, parce qu'on parle tellement de manière démesurée tout le temps de ce projet-là. Mais oui, là, on a... Puis, quand ça commence, là, ça, là, cette idée-là, là, que disons, la personne qui a le plus de chances d'être l'opposant à la personne que tu ne veux pas que soit élue, bien là, il peut avoir un transfert très rapide après.
Clairement.
Ce sondage-là, aujourd'hui, c'est sûr que ceux qui veulent voter de façon stratégique, bien, ils le regardent attentivement, ce sondage-là.
Est-ce que ça va se tenir, vous pensez, petite parenthèse, est-ce que ça va se tenir, cette tendance-là, ou ça va jouer autrement à la fin de l'élection? Assurément, on n'a pas de boule de cristal, mais...
Bien, en fait, quand on regarde des sondages en campagne, on va regarder les tendances. Si on a un soubresaut, à un moment donné, on ne va pas nécessairement s'y attarder plus qu'il faut, mais la tendance, c'est que Bruno Marchand a augmenté tout le temps. Il n'est pas parti comme un grand favori en perdant tranquillement des plumes. Parce que quand tu perds tranquillement des plumes au fil de la campagne, c'est là que souvent qu'on va voir une espèce de mouvement à la fin là, où tout revire de bord. C'est ça que c'est passé en 2021.
Puis c'est un peu ce que sa maman de vie, si on en comprend le genre de messie qui arrivait, puis finalement, ça n'a pas les impacts.
C'est un bon point.
Oui, absolument. C'est ça. C'est, en fait, sa maman avait mis les attentes élevées. C'était quelqu'un qui arrivait avec une notoriété qui était plus grande. Et bien, sa campagne s'est pas bien passée. Il faut le dire objectivement. C'est pas une campagne qui s'est bien passée.
Quelques réactions des auditeurs. Pour être franc, j'aime pas Marchand et sa vision, mais jusqu'à date, on dirait que c'est le seul adulte dans la course. Donc, honnêtement, ça vient jouer. Je suis convaincu sur les pourcentages. Autre auditeur qui nous écrit, ce qui est triste et pathétique, Marchand est en avance, mais pas pour avoir bien défendu son bilan ou ses promesses électorales. Une vraie marche dans le parc, malgré la grogne qu'il a générée dans son premier mandat. Oui, puis les gens, moi, dans ce sondage-là, ce qu'on regardait, c'est 86% des gens sont fiers de vivre à Québec. Puis Stéphane Lachance et Sam Hamad ont tout fait à part nous rendre fiers dans la dernière semaine.
Oui, puis aussi leur message de campagne, c'est sûr, quand tu arrives puis tu remets en question le bilan du maire en place, bien, le niveau d'insatisfaction ou ton sentiment par rapport à ta ville, ça va avoir un gros impact. Il y en a des gens qui sont fâchés. Puis d'ailleurs, c'est ce qui avantage aussi Stéphane Lachance face à un Sam Hamad. C'est que les fans de Stéphane Lachance, ils vont pas le lâcher avec ce qui s'est passé la semaine passée. Mais ceux qui se demandaient, qui magasinaient, qui regardaient Sam Hamad, qui disaient est-ce que ça ferait un meilleur maire que Bruno Marchand. Donc finalement, même si c'est plutôt Stéphane Lachance qui était visé dans cette affaire de loi électorale qui a été bafouée, bien, finalement, ça nuit plus à Sam Hamad qu'à Stéphane Lachance en bout de ligne.
En effet. Un autre auditeur qui écrit « Quand le chantier du tramway va défigurer et paralyser Québec, je vais m'amuser à tourner le fer dans la plaie. » Tu auras le droit de le faire, ce sera ton opinion. Mathias, comment Sam Hamad vit ça sur le terrain d'être rendu troisième à 14% dans les intentions de vote?
Bien, c'est sûr que du côté de son parti en interne, l'heure ne doit pas être à la fête. On va pas se mentir. Par contre, Sam Hamad est sorti ce matin, puis il restait confiant, il gardait la tête haute. Bon, il disait qu'il avait déjà connu ça, des sondages de derrière, puis qu'il avait su remonter au cours de sa campagne, au cours de sa carrière politique. Puis il a utilisé un peu la donnée qui est à son avantage dans ces sondages-là, parce que oui, il y a le taux, il y a la projection pour les différents candidats, mais de son côté, pour lui, la donnée qui est importante, c'est le taux d'insatisfaction.
Moi, le chiffre qui m'intéresse, là, c'est le taux d'insatisfaction, la volonté de changement. Ça, là, dans tous les sondages, c'est les chiffres qui comptent. Le taux de changement, le taux d'insatisfaction sont très élevés. Les gens veulent du changement. C'est clair. On n'a jamais eu ça dans la ville de Québec depuis longtemps. À partir de là, les gens regardent qui est capable de faire le changement et le taux de changement inclut le tramway. Pour ça, on répète encore une fois aujourd'hui, nous, on est la seule équipe capable d'arrêter le tramway de novembre.
Anthony, est-ce qu'il se croit réellement dans ce qu'il dit ou c'est plus, il n'a pas le choix, il fait de la politique?
Ben, d'après moi, il y a une mauvaise journée, là, puis ça, on ne peut pas le nier, mais en politique, tu ne peux jamais démontrer une faiblesse face aux sondages. C'est sûr que quand tu as des mauvais sondages, tu vas avoir tendance à dire « moi, je ne crois pas à ces sondages », puis quand tu as un bon sondage, tout à coup, tu crois à ces sondages, c'est un classique.
C'est comme en radio, la façon de faire des sondages n'est pas bonne quand tu n'es pas numéro un, mais quand tu es numéro un, tu ne le remets pas en question, cette façon de faire-là, donc il n'y a pas de doute là-dessus. La CAQ, même principe, hein, on voulait tellement des élections proportionnelles pour pouvoir gagner le pouvoir, puis quand on a eu la plus grande majorité de l'histoire, ben, Québécois ne nous demandent pas ça. C'est toujours ça qui se passe. David qui écrit « Anti-tramway, anti-piste cyclable à la grandeur, mais si bol, je crois que je vais voter pour Marchand. » C'est la preuve que ce qui s'est passé la semaine passée a eu justement une incidence sur le vote des gens.
Mais j'ai peur que les gens soient insatisfaits longtemps après parce qu'ils votent un peu par dépit de ce qu'on comprend. Ben dans, du moins dans notre texto à nous.
Dans nos textos, en effet. Par contre, pour la première fois, le taux de satisfaction dépassait le taux d'insatisfaction dans le dernier sondage pour Bruno Marchand.
C'est un point.
Très léger, 52 à 48
%. C'est divisé, mais en même temps, c'est des taux de satisfaction, c'est généralement, ça tourne autour de ces eaux-là, que ce soit un premier ministre du Québec, du Canada ou un maire d'une municipalité. C'est normal que tu n'aies pas nécessairement une grande majorité de satisfaction. Mais c'est vraiment ça qui ressort des derniers jours de la campagne, c'est que finalement, on n'était pas tant sur les annonces puis les visions des choses, on était plus sur des éléments de caractère. Donc, c'est quoi l'attitude, l'approche en politique de chacun de ces candidats-là, et ça a avantagé finalement Bruno Marchand, qui a eu l'air de l'adulte dans la pièce, comme le disait l'auditeur.
Mathias était là en remplacement de Pascal Cévé lorsqu'elle est montée le Kilimanjaro. Félicitations encore, Pascal Cévé, pour ta montée du Kilimanjaro. Puis à un moment donné, tu me dis, je m'en rappelle, « Hey, Jeff, aimerais ça aller couvrir Sam Hamad puis Stéphane Lachance, mais ils font jamais d'annonce. Fait que je suis toujours rendu avec Bruno Marchand. Elle aime bien le maire Marchand, mais je veux pas que ça soit mon ami. Ben là, Sam Hamad, va-tu changer de quoi dans sa stratégie à 14 %?
Ben, je pense que à 14 % avec deux semaines de campagne, il a pas le choix d'ouvrir la machine à un moment donné, si je peux le dire comme ça. Puis c'est ça qu'il nous a dit aujourd'hui. Une annonce chaque jour pour les deux prochaines semaines. Pourquoi avoir attendu si longtemps? Voici sa réponse.
Les deux dernières semaines dans une élection, c'est là que ça se passe. Mois d'avril, mois de mai, là, pensez... Moi, le monde, mois d'avril, mois de mai, il y en a qui me demandaient s'il y avait une élection. Ils ne savaient pas. C'est pas... C'est... Les gens, ils ont d'autres choses à faire. Vous autres, vous êtes là-dedans, là, mais eux, là, sont dans leur vie. Puis là, là, ils savent que l'élection s'en vient. Il reste deux semaines. Deux semaines, c'est là que ça se décide. Je vous le dis.
Antonine, je me fais l'avocat du diable. 26 % au début de la campagne, Sam Hamad, 18 % au deuxième sondage, 14 % au troisième sondage. Il y a bien beau dire que les gens étaient ailleurs, les gens l'ont bien, s'il vous plaît, aussi. Là.
Mais tantôt, je vous parlais de tendance. C'est ça, là. On perd des plumes tranquillement au fur et à mesure de la campagne. Est-ce que les choses peuvent changer d'ici deux semaines? C'est sûr!
C'est clair.
Mais la tendance est contre lui en ce moment. Puis c'est vrai que les gens sont passés dans leur salon à écouter la télé temps plein là, puis à regarder chacune des annonces. Mais qu'est-ce, quand ils entendent parler de sa maman, de quoi ils entendent parler?
Du négatif.
Ben, c'est du bon, négatif. Ça. Puis il peut bien accuser les médias, là, mais à un moment donné, il y a une limite à... Mathias, tu le disais, là, on voudrait vous couvrir davantage, mais quand il n'y en a pas de matériel,
il
n'y en a pas.
Autour de là.
Ben, c'est ça, quand il n'y a rien à couvrir, il n'y a rien à couvrir, malheureusement. Là.
Puis... Mais ça, c'est quand même particulier de la part de sa maman. C'est un politicien d'expérience. Ouais. Puis vous m'avez dit qu'il a avoué avoir eu une stratégie pas tout à fait assez
en
éloquente
effet,
pour lui en attendant trop longtemps avant de donner un peu de chair autour de l'os. Mais il est peut-être trop tard.
Oui, ben c'est ça. Peut-être trop tard. J'ai presque le goût de le dire comme ça. Bruno Marchand, ça fait deux semaines qu'il fait une annonce par jour.
Tout le temps.
Puis M. Hamad réagit sur des projets de Bruno Marchand en ce moment. Moi, c'était la discussion que j'avais ce matin avec Véronique Bergeron. Il n'y a rien qui émane réellement d'un genre de stratégie personnelle où ils ont évalué un projet. À moins que j'ai manqué quelque chose, tout ce que je vois, c'est une réaction à ce qui existe déjà.
Oui, ben ça ressemble un peu à ça, honnêtement. Là, même aujourd'hui, là, on va en parler sous peu.
Oui, allons-y tout de suite. Rapport... Battons-le. Faire pendant qu'il est chaud. Yes, il y avait une annonce de la part de Sam Hamad ce matin. Puis encore là, c'est une annonce pour dire « Marchand pas bon ».
Oui, bien ça ressemble à ça. C'est une annonce en termes de mobilité. On dit vouloir revoir des corridors vivacité. Donc, évaluer s'ils sont vraiment utiles ou pas ou s'ils nuisent à la circulation. D'ailleurs, on a fait l'annonce ce matin devant le boulevard Perle-Lièvre où il y a présentement un corridor vivacité qui va être revu, qui va être retiré par l'équipe de Sam Hamad, justement. On veut relancer le projet de pont à étagement, notamment, mais on comprend que ça dépend pas juste de Sam Hamad, mais aussi du gouvernement provincial. On veut retirer jusqu'à 200 interdictions de virage à droite, mais en toute sécurité de ce que M. Hamad dit. Puis on veut faire une utilisation accrue de l'intelligence artificielle qui est déjà utilisée pour la ville de Québec. On veut l'améliorer en gros. Donc, on a fait l'annonce devant Perle-Lièvre, le corridor le plus ciblé par l'annonce, vraiment. Puis Hugo Langlois, candidat dans Vanier-du-Berger, justement le district en question, indique pourquoi l'implantation de ce corridor-là était une erreur.
Autre élément, il y avait des corridors cyclables ici avant. Ils étaient insuffisants, ils étaient d'une autre époque. Mais là, ce que les gens nous disent, ça, c'est beaucoup trop le futur. On n'est pas rendu là. Donc, on va trouver une solution mitoyenne. Maintenant, combien ça coûte d'avoir fait ça versus combien ça coûtera de l'enlever? C'est ça la question. La question, c'est pas combien ça va coûter de redonner aux gens ce qu'ils nous demandent. La question, c'est combien ça va coûter d'avoir fait une erreur sans l'admettre. Parce que c'est ce que les gens nous disent. C'est une erreur. On veut que tout le monde ait sa place sur Père Lelièvre.
OK, Antonine, t'étais pas là vendredi quand j'ai dit, quand Mathias nous a présenté les extraits justement des gens à l'Université Laval où j'ai dit, hey là, les candidats en mairie devraient écouter ça puis se dire, ouais, moi je rêve d'un politicien qui planifie la ville pour dans 15 ans.
Le futur.
Dans 20 ans. Pas dans tout de suite, là. T'sais, tout de suite, là, c'est les baby boomers qui vivront pas cette ville-là. Là. Faut regarder les jeunes, comment ils vivent, comment ils vont vivre. Et planifier la ville comme ça, parce que des grands projets, ça se planifie sur 15-20 ans, ça se planifie pas sur un mandat de 4 ans. Ben, Hugo Langlois vient de complètement dire la différence de ce que je pense.
Les gens nous disent, ça, c'est trop le futur.
Ça, c'est trop le futur. Qu'est-ce qui est trop le futur?
Je pense que cette ligne de presse-là devrait être revue pour la suite des choses.
Par contre,
de dire que sur l'acceptabilité sociale, sur la manière d'être à l'écoute, on le sait que c'est une des critiques de l'administration Marchand. C'est qu'on considère que des fois, il est un peu en mode, c'est le même, c'est même, puis oui. les gens vont s'habituer. D'ailleurs, on en a parlé avec lui quand il est venu en studio la semaine passée. Là, comment on fait pour aller chercher plus d'adhésion? Je pense que ça fait effectivement partie du défi de M. Marchand. Mais là, dire ça, c'est trop le futur, là.
C'est bizarre.
Je me suis un peu étouffé avec mon café.
Jonathan qui nous dit « Bien content de voter à Lévis ». Bien, ça tombe bien, mon Joe, parce que demain midi, sur les ondes de Boulevard 101, à l'émission On en jase, Serge Bonin, chef de Repensons Lévis, Isabelle Demers, chef de Lévis Force 10, et Stephen Blainey, chef de Prospérité Lévis, débat pendant 30 à 40 minutes sur nos ondes. Donc, soyez-y, mesdames, messieurs.
En même temps, super important parce que la Rive-Sud et la Rive-Nord, c'est interrelié.
Ben oui,
ça va l'être encore plus pour les prochaines années avec les projets de mobilité.
Ah oui, donc ça va être un débat très intéressant. Anne-Marie, je ne suis pas trop marchand, mais je dois avouer qu'il n'y a personne qui me convainc d'aller ailleurs pour l'instant. T'sais, quand on parle d'une victoire pratiquement par défaut à cause du comportement de Sam Ahmad et de Stéphane Lachance. Pascal, je n'étais pas dessiné encore entre Ahmad et Lachance. Leur alliance aurait réglé mon dilemme. Mais là, les deux, c'est gênant. Claude André, c'est triste que ce soit la faiblesse des adversaires et non la force de Marchand qui va construire la ville. Bref, Marchand ne perdra pas, mais pour moi, c'est une victoire sans mérite. Mais c'est vrai qu'il ne perdra pas, juste à cause que les deux, puis là, excusez-moi du terme, là, c'est les termes que j'utilise avec mes ados, là, mais juste parce que les deux cocos de porc ont trouvé rien d'autre à faire que de chicaner.
Ben c'est ça. Puis, tu sais, une victoire sans mérite, je veux quand même dire qu'en politique, l'important, la première chose, c'est que tu gagnes.
Oui.
Après ça, tu recherches ton mérite comme tu veux, mais tu sais, on peut... Comment dire? Je pense qu'ils vont l'apprendre pareil. On va dire ça comme ça.
Oui, ils vont l'apprendre pareil parce que, d'après moi, puis là, c'est pas encore réglé, là, on s'entend, là, mais c'est sûr qu'ils étaient plus nerveux au début de la campagne qu'ils le sont à l'heure actuelle. Hey, Sam Ahmad, c'est souvent plein de la couverture médiatique. Et es-tu encore revenu là-dessus, mon Mathias?
Malheureusement, oui, j'ai le goût de dire. On aurait dit qu'il passe pas à d'autres choses, donc on peut l'écouter. Il lance une petite pointe.
On a un bon programme. On a des messages à envoyer. On continue de les envoyer. Notre défi, là, que les citoyens nous entendent. Et évidemment, on fait une annonce pour le vétéran, bien, la couverture est bonne, mais elle pourrait être meilleure. Et on fait des bonnes annonces, puis, mais on fait des annonces répétées, on en parle pendant longtemps, puis on fait une annonce qui touche 6000 personnes à Québec qui ont subi des éléments importants. Puis, bien, nous, on va continuer à répéter, on continue à faire nos annonces, puis on souhaite que les citoyens nous entendent.
Encore une fois, je tiens à le répéter quand il a dit on fait des annonces répétées, puis on en parle, il parle que les médias parlent plus de Bruno Marchand que Sam Ahmad.
Ouais.
Bruno Marchand a un agenda politique, un agenda de communication beaucoup mieux développé qui fait en sorte que les médias en parlent plus. Du côté de Sam Ahmad, on n'a pas fait beaucoup d'annonces dans les dernières semaines.
Clairement.
On l'a déjà dit. Son annonce sur les militaires, vendredi en fin d'après-midi, c'est la fin de la semaine.
Ben
c'est
oui,
pas nécessairement.
Vendredi 15h. Et toi, stratège des communications, Antonine, tu fais toutes tes conférences le vendredi à 15h?
Bien, d'habitude, vendredi à 15h,
c'est
ce
mauvaise
que
nouvelle.
Tu veux qu'on ne couvre pas.
C'est
ça. Sort les vidanges, on appelle ça. On sort un communiqué pour dire, là, il faut qu'on dise ça, mais on veut pas que ça soit couvert.
Exactement. Et les vétérans, tu sais, c'est une super belle attention à nos vétérans, puis jamais je vais aller à l'encontre de ça. Mais c'est pas une annonce de campagne électorale.
Bien, c'est ça. J'allais dire la même chose. Moi, les vétérans, je les remercie, je les respecte. Je suis contente qu'il y ait une annonce pour eux.
Je les adore et merci infiniment d'être là pour nous et d'avoir été là pour nous.
C'est moins de 1 % évidemment de la population qui est concernée par cette annonce-là. Je pense que ça aurait pu faire l'objet d'une annonce dans le cadre d'une plus grande annonce sur, par exemple, le coût de la vie ou s'il y avait eu plus qu'un élément qui s'adresse aux vétérans. C'est une petite annonce. Puis en plus, quand tu nous envoies ça dans une fenêtre médiatique qui n'est pas super favorable, bien, après ça, tu peux pas juste te plaindre que les médias te couvrent pas. Là. J'ai plusieurs conseils à donner là-dessus, d'ailleurs. Là, des meilleures fenêtres pour faire des annonces. Ouais. Le dimanche, en passant, c'est très bon, parce que le lundi, on a besoin de sujets.
En effet. Un auditeur, une auditrice nous écrit, vous parlez pas des dépenses de 1,2 million pour les voyages à Marchand et de toutes ces taxes, par exemple. On en parle régulièrement. On a parlé, justement, du coût des voyages de Bruno Marchand. Sûrement qu'on ne sera pas dans ton ordre d'idée d'esprit, mais pour nous, 1,2 million de dollars sur 4 ans pour le maire de Québec qui gère un budget de 2 milliards par année, n'importe quel président d'entreprise qui a un budget de 2 milliards va dépenser ça.
Mais ça, c'est fascinant parce qu'on pourrait parler des taxes à l'immatriculation chaque jour, les taxes au chat, le ci, le ça, les taxes foncières. Tout ça, on pourrait en parler chaque jour, mais c'est exactement ce qu'Antonine, toi, Mathias, tout le monde fait résonner en ce moment. Bruno Marchand prend du galon, pas parce qu'on parle pas assez de ses erreurs, parce que les autres en font.
Ils en font plus.
Oui.
Exactement. Et la personne rajoute, je pensais pas que vous étiez du pro-marchand. Je suis pas du tout pro-marchand, c'est juste qu'on
analyse. Ça vient de sortir.
Oui, oui. On analyse la situation avec rigueur puis avec les informations.
Pour moi, c'est l'image par excellence de ce qui se passe sur la joute politique municipale en ce moment.
T'as entièrement raison. C'est un excellent point. Mathias, on termine avec Sam Hamad. Bon, on n'a pas le choix, là. Faut closer sa fameuse chicane, là. Et y en a-tu des enregistrements? Y en a-tu pas? Il se passe quoi? Il va-tu avoir des plaintes? Qu'est-ce qui se passe avec cette chicane-là? On met ça de côté ou on continue là-dedans?
Ouais, ben faut closer, mais en même temps, on voit que Sam Hamad s'était lancé sur les enregistrements, puis s'est vite retiré, mettons.
Je suis surpris d'avoir une copie d'enregistrement quelque part. C'est la... OK. Merci beaucoup. Bonne journée.
Donc, ça, c'est à la Sam Hamad. À chaque fois qu'il se lance quelque chose, que là, finalement, il est trop sûr, c'est « Merci, bonne journée », puis il s'en va.
Je comprends même pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Peux-tu m'expliquer?
OK, en gros, il disait qu'il doutait qu'il y ait des copies réelles d'enregistrement. On parle présentement de la fameuse rencontre entre Hamad puis la chance qu'il a eu, qu'il a supposément eu poste offert d'un côté puis de l'autre. Du moins, c'est ce que les deux parties s'accusent. Là, il s'est lancé. Qui doutait qu'il y ait des enregistrements de cette fameuse rencontre-là, parce que c'est ça la rumeur qui coule, que Stéphane Lachance en aurait.
Mais là, Stéphane Lachance a annoncé ça, qu'il avait transmis soit des enregistrements,
soit des témoignages.
Exactement. Je m'excuse, mais c'est dangereux d'aller dire que ça n'existe pas, parce que ça serait vraiment, ça va être facile de prouver le contraire. Pourquoi Stéphane Lachance aurait menti là-dessus, honnêtement?
C'est peut-être pour ça que j'ai coupé ça court, justement, sa déclaration.
C'est rendu compte qu'il s'en allait sur la pelure de banane.
Exactement, il s'en allait sur la très grosse pelure de banane. Hey Mathias, merci infiniment pour ton excellent travail. Tu vas à Bruno Marchand à 1h30, puis tu vas être dans le retour, si je ne me trompe pas.
Oui, 15h40 dans le retour.
Excellent, j'ai très hâte de t'écouter sur l'annonce de Bruno Marchand, mais je pense pas que c'est une annonce aujourd'hui. Je pense qu'il va répondre aux questions.
De ce que j'ai compris.
Il va se bomber le torse un peu.
Ah ouais, il va se bomber le torse. Mais avant ça, de ce que j'ai compris, il y a quand même une annonce. Fait qu'il va faire probablement une plus petite annonce vu que l'attention médiatique va être sur le fait qu'il se bombe le torse pour des sondages.
C'est ça. Puis, reste là parce que Mylène nous écrit, je suis totalement d'accord avec elle. Allô, j'aimerais juste souligner le talent et la passion de Mathias. En quelques mois seulement, tu es devenu extrêmement à l'aise et ça se voit que tu aimes le milieu, les sujets abordés, informer les gens. J'aime beaucoup t'écouter, je suis contente que tu reviennes régulièrement. Mais OK, Matt, pars avec ça, voir Bruno Marchand. Puis s'il se bombe trop le torse, fais-toi un print screen de ça, puis dis-y, c'est moi le meilleur ici.
Rien de moi. C'est moi qui va me bomber de torse, finalement.
Exactement.
Merci beaucoup, Mylène, pour le beau commentaire.
En passant, l'auditeur ou l'auditrice qui nous a écrit sur les dépenses de Bruno Marchand, merci, j'adore lire et entendre vos opinions différentes. J'aime avoir une ouverture d'esprit. Puis bien, des fois, vous réussissez à me convaincre. Donc, continuez comme ça. On a justement, Marchand a dépensé combien dans les 4 ans en voyage? Environ 10 000 par année. Et ça fait pas tout rembourser. Ça a de l'allure, son affaire. Bien, tu sais, à un moment donné, un maire de Québec, là, puis moi, ça va toujours être mon patois, puis merci d'écrire puis d'essayer de me convaincre, mais un maire de Québec, si on veut que Québec, comme capitale nationale, rayonne, il va aller à l'étranger. Puis il est le président des villes du patrimoine mondial. Puis ça, c'est un excellent coup pour Québec. Donc, il y a pas, tu sais, on peut rester chez nous dans nos petites affaires, mais on ne développera pas grand-chose.
En fait, on a le droit, en fait, les gens ont le droit de vouloir un maire qui ne voyage pas. Moi, j'ai pas de problème. Par contre, de remettre ça en question comme si c'était un enjeu d'éthique, comme s'il y avait exagéré.
C'est vrai, c'est un bon point.
Mais si vous voulez un maire qui ne voyage pas puis qui s'occupe des vidanges puis du déneigement, c'est bien correct aussi.
Oui.
Puis après ça, ben, on débat. Mais quand on vient le couvrir comme si c'était un bandit qui avait volé de l'argent dans la caisse publique, là, c'est là que je débarque.
PO nous écrit, l'annonce des vétérans aurait dû être jumelée avec une annonce sur l'itinérance santé mentale, car dans trop de cas, les vétérans tombent là-dedans. C'est un excellent point, PO. Mm-hmm. Ah oui, excellent point. Tu peux aller donner ton nom pour le stratège de Saint-Mandat. bon, OK, on vient de parler municipal. On est revenu un peu sur la chicane, mais là, Antonine, il y a une chicane dans le Parti conservateur du Canada. On se lance des tomates.
Ouais, des tomates, t'es poli. OK. Dans le fond, Pierre Poilievre, la semaine passée, il y a un enregistrement qu'il a fait dans un podcast très conservateur, là, très, très favorable, on va dire, au Parti conservateur, dans lequel il y a eu des propos assez particuliers où on disait que ben, dans l'affaire SNC-Lavalin, hein, il y a quelques années, quand il y a eu le conflit entre Justin Trudeau et la ministre, sa ministre de la Justice, et qui a fini par démissionner, là, Mme Ribble, Pierre Poilievre laisse entendre qu'il y a eu cover-up. Il y a eu cover-up de la part de la GRC et que, dans les faits, M. Trudeau devrait être en prison, là, quasiment présentement.
C'est gros quand même.
C'est
ben oui.
Très gros. OK. Puis l'affaire SNC-Lavalin, je veux dire, ça a été une grosse affaire. Il y a eu toutes sortes d'enjeux éthiques qui ont été couverts par les médias. Mais d'aller dire que la GRC est de connivence et que c'est une police politique, finalement, ça, c'est extrêmement grave. Et, bien, bon, écoutez, quand j'ai vu ça passer la semaine passée, j'étais vraiment comme, quel est l'usage de cette sortie pour Pierre Poilievre?
Exactement. Là, et là, il y a des critiques conservateurs, des anciens du Parti conservateur qui sont sortis, dont Dimitri Soudas, qui est justement là, un chroniqueur pour le réseau Radio-Canada RDI.
Oui, et Dimitri Soudas, c'est l'ancien directeur des communications de Stephen Harper. Et il commente dans les médias. Donc, c'est quelqu'un qui est connu au Québec et qui est connu dans le reste du Canada aussi. Il a travaillé avec tous les journalistes pendant des années. Donc, c'est pas banal, là, sa sortie. C'est disons, susceptible de faire mal à Pierre Poilievre, qui a un vote de confiance qui s'en vient en janvier et qui a subi une défaite électorale le printemps passé. Donc, un chef qui subit une défaite électorale est toujours en danger.
Mm-hmm.
Et il soulignait que, ben, premièrement, c'est plus le Parti conservateur qu'il a aimé, qu'il reconnaît avec les valeurs conservatrices, qui trouve qu'on est devenu trop populiste, qu'on crache sur les institutions, sur les médias. Bref, il fait un parallèle même avec l'approche de Trump.
Oui, je te fais entendre justement ce que Dimitri Soudas avait à dire ce matin sur les ondes de RDI par rapport à la différence entre Stephen Harper et Pierre Poilievre.
Et le dernier point que je vais faire, Catherine, en 2006, puis là, je mets mon chapeau d'ancien conseiller directeur des communications de Stephen Harper, nous avons fait campagne contre les libéraux sur le scandale des commandites. C'était un scandale où il y avait de la corruption politique.
Oui.
Stephen Harper n'a jamais exigé que Jean Chrétien ou Paul Martin soient mis en prison. C'est la goutte qui a fait déborder le vase. Pour plusieurs, puis certains disent, ou M. Reyes ce matin dit, que peut-être Dimitri Soudas est en train de dire tout haut ce que plusieurs autres pensent tout bas.
Et il ajoute...
Peut-être que les gens sont fâchés, frustrés avec le gouvernement, avec tous les enjeux qu'on discute sur une base quotidienne sur notre émission, mais quelqu'un qui est un premier ministre en attente, dans une démocratie de loi et d'ordre, a un droit de réserve à dire qu'on aurait dû mettre Justin Trudeau derrière les barreaux, que la GRC, la police nationale, avait des preuves et a caché ces preuves, et que la police nationale, la GRC, est méprisable. Ça mine la crédibilité de nos institutions démocratiques.
En plus, Antonine, là, moi, je veux dire, en tant que commentatrice de l'actualité, je me pose la question dans quel camp je dois me commettre. Est-ce que je dois avoir une oreille attentive pour ce qu'on vient de dire du côté de Pierre Poilievre, ou je dois fermer la porte en me disant, ben, ça fait pas de sens, parce qu'en plus, ben, quand on entend un soudasque commenter, tu te dis, ben, non, non, ça va trop loin, donnons pas d'intérêt à ce que... C'est difficile de se positionner, là.
Mais en fait, c'est qu'il y a deux niveaux. Il y a la question sur le fond des choses avec ce qui s'est passé avec SNC-Lavalin et j'ai constaté sur les médias sociaux en fin de semaine qu'il y a beaucoup de gens qui croient à la version de Pierre Poilievre. Mm-hmm. Ça, c'est un choix de vie, là, puis je laisse les gens avec leur opinion. Mais après ça, le vrai débat, c'est sur la capacité de Pierre Poilievre à être premier ministre du Canada. C'est ça le vrai débat en ce moment, et c'est ce que Dimitri Soudas et d'autres conservateurs veulent souligner. C'est que ce gars-là n'est pas capable de s'élever assez pour devenir premier ministre et de mener les conservateurs à la victoire. Deux choses là-dessus. La première, c'est que je suis assez d'accord que ce qu'il a fait la semaine passée, ça ne fait pas premier ministre. Je trouvais qu'il avait fait une bonne campagne électorale, Pierre Poilievre, qui avait réussi à mettre sa cape de premier ministre. Et pour moi, ce n'est pas lui qui a été battu, Pierre Poilievre, à la dernière campagne. C'est un concours de circonstances sur lequel il n'y avait absolument aucun contrôle, qui est le retour de M. Trump, l'arrivée de Mike Carney avec une aura. Il n'y avait rien à faire. Puis comme tel, là, si tu regardes son résultat à lui, c'est pas si mauvais, mais le NPD s'est effoiré et ça, tous les votes sont allés du côté des libéraux. C'est pas lui qui a perdu ses votes au profit de Mark Carney, c'est les votes NPD qui sont tous allés finalement à l'option la plus rassurante pour des gens plus de centre-gauche.
Oui, parce que les conservateurs ont fait des pointages au niveau du pourcentage de votes comme il n'y avait jamais fait dans l'histoire.
Non, c'est ça. Fait qu'il faut, moi, je trouve qu'on évite d'acheter les tomates à Pierre Poilievre pour la défaite qu'il a connue cette année. Maintenant, sur sa capacité à être au-dessus de la mêlée, c'est difficile. Et la semaine passée, il a reculé. Ça ne donnait rien d'aller dire des affaires de même, comme quoi Justin Trudeau devrait être en prison. Parce que sa base n'est pas en train de le lâcher à Pierre Poilievre. Mm-hmm. Il n'aurait pas dit « Mon Dieu, la semaine vient de passer », puis il n'a pas accusé Justin Trudeau de devoir être en prison. Je vais arrêter de voter pour lui, puis il va perdre son vote de confiance. Puis je vais pas... pas du tout. Donc, tout ce que ça a fait, c'est donner une occasion pour les conservateurs plus Tory, là, parce que là, il faut le dire, tu sais, la dernière course à la chefferie, Pierre Poilievre l'a gagné contre Jean Charest, qui est un conservateur plus classique, plus Mulroney, ce qu'on appelle les progressistes conservateurs. Ouais. Et Pierre Poilievre est plus de l'approche populiste, donc la droite plus populiste. Il a gagné de manière convaincante, Pierre Poilievre, contre Jean Charest, alors que, tu sais, quand tu regardais le début de la campagne, tu disais, mon Dieu, c'est sûr que Jean Charest va gagner. Pas du tout. Donc, là, c'est ça, la guerre en ce moment. C'est, je pense qu'il y a des gens qui voient le Parti conservateur et qui disent, ce n'est plus mon parti, et qui souhaiteraient que le Parti conservateur reprenne ses, là, je le mets entre guillemets, parce que c'est leur vision des choses, mais leur lettre, ses lettres de noblesse. Mais dans les faits, ça va être extrêmement difficile pour ces gens-là d'aller reprendre, entre guillemets, le Parti conservateur. Et je ne vois pas en ce moment d'opposant vraiment se démarquer pour aller tasser un Pierre Poilievre. Il y avait des rumeurs pendant un bout de temps que Doug Ford pourrait être le poulain de ce genre de conservateur Tory. Mais Doug Ford ne parle pas français en passant. Là, puis pour devenir premier ministre du Canada,
il faut que tu parles français parce que sinon français. Il va vivre l'épopée Carney qu'il vit actuellement avec le français.
Il parle moins bien que Mark Carney, pas mal.
Il parle moins bien que Mark Carney, donc t'imagines. On termine le caucus Iaccarini qui est toujours disponible du lundi au jeudi sur les ondes de Boulevard 102 entre midi et midi 30 à l'émission On en jase. Je veux te faire écouter Dimitri Soudas justement sur la stratégie de Pierre Poilievre d'attaquer encore Justin Trudeau. Même si Justin n'est plus là.
Justin Trudeau n'est plus là. M. Poilievre ne pourra pas faire campagne contre Justin Trudeau. Justin Trudeau est quelque part sur une plage. c'est cette obsession Trudeau où il faut tourner la page. Et...
T'en penses quoi? Moi, je trouve que Poilievre est encore omnibulé par Justin Trudeau.
Il s'ennuie!
Puis pendant ce temps-là...
Jeff!
Ouais, mais là, Mark Carney fait des gaffes par-dessus gaffes. Il n'a rien réglé. Pourquoi il n'attaque pas Carney sur le fait qu'il ne règle rien avec Donald Trump? Pourquoi il frappe encore sur Trudeau?
Je pense que poser la question, c'est y répondre, là, Jeff. Là. Il n'y en a pas de bonne raison de continuer de fesser sur Justin Trudeau. Ouais. Tu sais, peut-être que tu veux... Peut-être attaquer les libéraux qui étaient là sous Trudeau, sur le bilan. OK, très bien, mais il s'ennuie. Il s'ennuie, Pierre Poilievre.
Oui, il s'ennuie Trudeau. Parce que quand Justin Trudeau était là, il y avait un petit 50% dans les sondages facile.
Il lui donnait facile.
C'était son meilleur ennemi.
Mm-hmm. Parce que Justin, là, présentement, il est sur la plage avec elle.
Et qu'il a l'air bien.
I kiss Justin.
J'ai
ça va être ta prochaine tune.
En fin de semaine, là, je l'ai regardé dans les podcasts avec son fils, avec ci, avec ça. Ouais. J'ai l'impression là, que Justin Trudeau s'est dit « Oh diable, tout ce que je représentais, je vire ma vie de bord et je m'en contrefous. » Il y avait m'en foutisme.
Il fait bien. Par contre, je dois vous dire que quand je l'ai vu lancer le nouveau vidéo de son
j'ai
fils,
eu mal.
J'étais comme « Excusez, mais il y a Nepo Kid et Nepo Kid. » Si vous ne savez pas c'est quoi des Nepo Kids, c'est népotisme, enfant de népotisme. Là. Moi, si je voulais j'avais lancé ma carrière musicale puis que mon papa ou ma maman était connu, je le mettrais pas dans mon petit vidéo pour lancer mon nouveau vidéo. Ouais. Hey, ça fait-tu assez? Papa!
J'ai besoin de toi!
Je veux tes followers!
Puis on le voit à bord de voitures de luxe.
Ah, c'est quétaine!
C'est vraiment quelque chose. Des studios d'une grande valeur que même des artistes, j'ai l'impression, connus n'ont pas. Tu te dis, bon, l'argent est venu d'où? Tu sais, il y a quelque chose.
Mais après ça,
chose.
Il va dire, moi, j'ai construit ma carrière moi-même, là. Non, non.
Non, mais c'est ça, mais c'est exactement ce que Patrick Roy n'a pas fait pour Jonathan Roy.
Ben, c'est ça. Mais
Jonathan Roy avait demandé à son père de rester à l'écart en disant, hey, je vais me débrouiller par moi-même, même si t'es Patrick Roy.
Moi, je pense que c'est la chose à faire. Ben oui. Tu veux monter une crédibilité. Cela dit, tout ça pour dire que Pierre Poilievre décroche. Ouais. Il n'est plus là, Justin.
Il est parti. Je termine le caucus avec des commentaires d'auditeurs. Merci de réagir au ton 418-971-101. Le Parti réformiste a pris le contrôle du Parti conservateur. T'en penses quoi? C'est ça? Hein?
C'est ça.
C'est le Parti conservateur de l'Ouest, non conservateur, sur le point de l'économie. Poilievre doit nourrir la frange de l'Ouest. En effet, ça fait partie, là, justement, d'un truc qu'on voit. Et Pierre Poilievre a besoin de Justin Trudeau comme Batman a besoin de Joker.
Et voilà, quel bon résumé.
On termine, justement, le caucus sur cet excellent résumé. Continue à interagir au 418-971-101. Après la courte pause, passage remarqué, Pascal CV de Régis Labeaume. Tout le monde en parle.
Oui, il n'a pas fini avec la politique. Même s'il se dit contre d'être la belle-mère, puis de commenter, puis de ci, puis de ça. Il adore les médias, mais mon petit doigt dit que la politique lui manque, même s'il dit que non.
Ah oui, ça le démange tout le temps. Donc, on en parle après cette courte pause à l'émission d'Angers sur les ondes de Boulevard 102.1.